Est-ce que vous savez tous de quoi il s'agit? Non dualité, ça vous dit quelque chose, perspective non duelle, ou est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas?
On vient découvrir.
Vous n'avez jamais entendu parler. Bon, d'accord.
C'est pas par hasard qu'on est ici, non?
Et parfois, il y en a un peu par hasard.
Vous pensez vraiment?
T'as lancé, là?
Oui, c'est lancé, mais on pourra couper s'il y a des bêtises.
Oui. J'imagine. J'aime bien parler de perspective non duelle et non pas de non dualité, parce qu'il s'agit vraiment seulement d'un changement de perspective. Il s'agit seulement de voir s'effondrer une des croyances. Rien d'autre que ça. Ça veut dire, n'attendez pas de la perspective non-duelle qu'elle vous apporte un changement complet, enfin, c'est faux ce que je dis là en même temps, un changement dramatiquement, quelque chose de dramatiquement différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Si vous avez déjà fait l'expérience mystique, vous savez l'état dans lequel on peut se trouver dans ces cas-là. Là, c'est franchement carrément différent. L'éveil, ou plus exactement, la réalisation de l'absence de moi et la réalisation de l'absence de monde, de l'absence de réalité de cette réalité-là, enfin cette réalité n'est pas définitive, est beaucoup plus ordinaire et simple que n'importe quelle expérience de type mystique ou spirituel qu'on a déjà pu faire. Et, d'un autre côté, c'est complètement révolutionnaire en ce sens qu'il n'y a pas de retour possible. C'est-à-dire qu'il y a un changement complet qui s'effectue. Il y a un changement de perspective qui est définitif. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de la Terre. Autrefois, on pensait qu'elle était plate. On a même tué des gens parce qu'ils disaient qu'elle était ronde. Les gens croyaient qu'elle était plate. Mais la Terre était quand même ronde et tournait quand même autour de son axe. Mais les gens avaient peur de tomber dans le trou s'ils allaient trop loin en mer. Le jour où on a accepté que la Terre, ou compris que la Terre était ronde et pas plate, la Terre a continué sur son axe. Rien n'a changé. En réalité, rien n'a changé. Une croyance s'est effondrée et les êtres humains ont vécu différemment sur cette planète. Ils ont arrêté d'avoir peur de tomber dans le trou. Vous voyez ce que je veux dire? En ce sens-là, c'est très simple. Et en même temps, c'est définitif, c'est révolutionnaire, parce que après on peut faire le tour de la Terre. Avant, on ne pouvait pas. Pris par des peurs. Un autre exemple, c'est celui du Père Noël ou du Père Flotard, pour ceux qui connaissent, ce serait plus adapté. On croit au Père Noël, et on croit que c'est lui qui amène les paquets sous le sapin. Et alors, on demande au Père Noël d'apporter tel et tel cadeau. Jusqu'au jour où on sait que c'est les parents qui font les cadeaux, enfin les amis, enfin etc. Ce jour-là, il y a toujours des cadeaux sous le sapin. Rien ne change. Mais la perspective qu'on a de Noël est complètement différente. Et pour moi, c'est exactement ça qu'il s'agit de faire. Enfin, ce qu'il s'agit de faire, c'est pas nous qui pouvons le faire, il n'y a pas de moi pour le faire. C'est réaliser que nous croyons en des choses qui sont fausses. Et une fois qu'il est vu que ses croyances sont fausses, elles s'effondrent. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, ce qu'on est. Et la première croyance, il y en a plein d'autres, mais la première croyance vraiment révolutionnaire à voir et qui va s'effondrer, c'est la croyance en l'idée d'un moi. Nous avons tendance à penser qu'il y a un moi. Individu séparé, qui agit par lui-même, qui pose des actes par lui-même, qui fait des choix par lui-même et qui pense par lui-même. Et c'est faux. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Ça veut dire aussi qu'aucun moi n'a jamais rien fait, puisqu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Donc aucun moi ne fera jamais rien. Ça veut dire aussi que tout ce qui arrive, arrive de soi-même. réaliser l'absence de moi, c'est ce que j'appellerais le premier réveil. Mais tout ça, c'est des mots, hein. C'est histoire de pouvoir parler de ces choses. Ultimement, c'est évidemment pas vrai. Le second sera de réaliser que, en réalité, tout ça, il n'y a rien. C'est un rêve. C'est une réalité non définitive. C'est une réalité existentielle, mais pas définitive. Ça, c'est une autre chose. Et ce n'est pas nécessaire à voir s'effondrer, il y a quelqu'un devant la porte, un grand nombre de souffrances. Et à offrir l'opportunité de la fin de toute souffrance. Parce qu'aussi, l'éveil, on a tendance à penser que ça va m'amener un état de paix, de joie, de béatitude, d'amour inconditionnel, etc., constant et mieux encore que dans les expériences mystiques. C'est faux. Ça offre l'opportunité de la fin de toute souffrance. Ça ne met même pas fin à toute souffrance. Parce qu'en réalité, à tout mal-être, je devrais plutôt dire, souffrance, c'est un peu fort, en moins dans mon cas. Parce qu'en réalité, avec l'effondrement de la croyance en l'idée d'un moi, tout ne s'arrête pas. Les autres histoires liées à ma personnalité, liées à mon éducation, liées à tout ce que je peux croire par ailleurs, ne s'effondrent pas d'un coup. Certaines choses s'effondrent, et elles même ne sont pas vues au moment où elles s'effondrent d'ailleurs. Et d'autres ne s'effondrent pas immédiatement. Ramana Maharshi disait que lorsqu'on coupe le moteur d'un bateau, il continue un temps sur son air. Et le temps que le bateau continue sur son air, c'est le temps que le regard prend pour se poser sur chaque histoire qui peut apparaître et qui est fondée toujours sur des pensées crues à tort. Et alors il y a d'un côté comprendre qu'il n'y a pas de moi, par exemple on va parler de ça d'abord, ou comprendre que tout ça est un rêve, voir qu'il n'y a pas de moi, voir que tout ça est un rêve, et réaliser qu'il n'y a pas de moi, réaliser que tout ça est un rêve. Ce sont trois choses très différentes. Comprendre, la compréhension est plus intellectuelle. Elle est aussi une observation, par exemple. Si vous regardez, est-ce que vous pensez vos pensées ou est-ce que les pensées apparaissent ? On peut faire le constat qu'en réalité les pensées apparaissent. Est-ce que, si jamais c'est pas clair, on y reviendra. Est-ce que vous avez déjà fait des choix dans votre vie ou est-ce que les choix se sont posés un jour ? Et est-ce que vous avez déjà posé des actes ou est-ce que les actes se sont posés d'eux-mêmes à un moment donné ? Et tout ça, on peut le regarder, on peut le voir, et alors on va se dire, ah oui, mais alors c'est vrai, tiens, mais alors c'est quoi le moi ? Ah, mais j'ai la sensation d'un moi, par exemple. Mais enfin, je sais bien que c'est moi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais de quoi c'est fait, cette sensation ? Et cette sensation, ben, elle est faite de quoi ? D'une sensation, c'est-à-dire d'une tension, d'une contraction, d'un frémissement, peu importe. Est-ce que cette sensation s'étiquette elle-même moi ? Jamais. Est-ce que cette sensation est différente des autres sensations ? Non. Vous voyez, donc, c'est ainsi que par une sorte d'investigation, on peut se rendre compte qu'en réalité, ce moi, ben, on ne sait même pas ce que c'est. Donc on comprend qu'il n'y en a pas, parce qu'on ne le trouve pas. Puis à voir qu'il n'y en a pas, et ça, sûrement parmi vous, il y en a qui ont déjà vu qu'il n'y en avait pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait, c'est su, ben, c'est vite, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne pense pas, je n'agis pas, je ne fais pas de choix. Il n'y a pas de moi. Ça se fait. Et il se trouve que souvent, cette vision n'est pas immédiatement suivie d'une réalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas définitif. C'est comme si on croyait que le moi allait et venait. Ah, j'ai bien vu qu'il n'y en avait pas, mais là maintenant c'est bien moi qui le fais, regarde comment j'agis, Burk. Hein, sous-entendu, souvent c'est comme ça. Quand on agit bien, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qui nous fait croire à ce moment-là que le moi peut aller et venir puisqu'il n'y en a pas? Et là, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas qu'il y a des pensées crues autour de tout ça qui viennent nous tenir encore dans cette croyance, en l'idée d'un moi. Et puis, il y a réalisé qu'il n'y en a pas. Et le jour où c'est réalisé, bah, c'est définitif. C'est vu, c'est su, c'est une fois pour toutes, c'est fini. C'est fini. Et ça, c'est... Alors, chaque étape est suivie de conséquences, mais celle-ci est radicale en ce sens qu'il n'y a pas de retour possible en arrière, comme je disais tout à l'heure, que évidemment qu'il n'y en a pas et qu'il n'y en a jamais eu, et évidemment que c'est une grande libération. Parce qu'alors, par exemple, je ne suis pas responsable et encore moins coupable de tout ce que j'ai pu faire ou dire ou de tout ce qui peut arriver. Je n'ai plus de questions à me poser sur comment je vais agir dans telle circonstance. Parce que de toute façon, j'y suis pour rien. Non pas parce que je n'y suis pour rien, mais parce qu'il n'y a pas un moi qui pourrait y être pour quelque chose ou pas. Ça va de toute façon se faire, comme ça devrait se faire. Et j'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc, simplement être là, dans cette présence. En fait, ce qui se passe, c'est que, d'une façon générale, nous sommes comme collés. Ce que je suis est collé à des pensées, à des sensations, à des émotions, à des événements. Et on croit qu'on est ce corps, on croit qu'on est ce qu'on fait, ce qu'on a prétendument choisi, ce qu'on pense, ce corps, enfin, etc. Et ce qui se passe, c'est que, et bien sûr, c'est moi qui fais tout ça, c'est moi qui suis cela, etc. Et ce qui se passe, c'est que le jour où cette croyance en l'existence d'un moi s'effondre, ça se décolle. Et naturellement, comme lorsqu'on cesse de tirer sur un élastique, il revient naturellement à sa position de repos, de détente. Et naturellement, on est déposé en je suis, en ce que je suis. Et ce que je suis est amour, paix, joie, sérénité, etc., etc. Et je l'ai toujours été. Quoi que j'ai fait dans le monde, quoi que j'ai pu penser, quoi que j'ai pu dire, quoi qu'il me soit arrivé, je suis cela, que j'en ai conscience ou non. Et vous aussi, évidemment, tout le monde, tout le temps. Je suis ce que je suis, je ne peux pas ne pas être ce que je suis. Et ce que je suis, par exemple, cet amour inconditionnel dont on parle, qu'il soit conscient, dévoilé ou non. La différence, c'est qu'une fois que c'est décollé, on finit par voir, ah mais attends, mais c'est ce que je suis. C'est même pas immédiat. Dans mon cas, en tout cas, c'était pas immédiat. Et je me dis, ah mais, waouh, ah oui, c'est vrai, mais c'est ce que je suis. Ah mais c'est pour ça qu'il y a toujours une joie de fond, quoi qu'il arrive. Ah mais c'est pour ça que c'est rigolo autant. Maintenant, je comprends. Mais c'est un après-coup. Souvent, on pense que au moment de l'éveil, ça y est, bah, voilà, c'est... Non, c'est pas vrai. Les choses se passent après. Les conséquences se produisent après. Enfin, il y en a une qui tombe maintenant, qui se produit tout de suite, c'est la perte en la croyance d'un moi. Ça, c'est... Mais après, les conséquences de la cessation de cette croyance arrivent après. C'est un petit peu... Vous comprenez que la Terre est ronde, vous n'en avez pas encore fait le tour. D'abord, il va falloir monter sur une caravelle et parcourir les océans. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, c'est un petit peu pareil. La croyance s'effondre, il y a quelque chose qui est réalisé. C'est fini une fois pour toutes. Et les conséquences se produisent encore et encore et encore et encore. Et beaucoup, beaucoup de gens, malheureusement, on les a souvent dit de travers, et moi compris, disent que l'éveil, ce n'est pas une fin, mais un commencement. Et c'est vrai. Il y a même un sage hindou, dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui dit « Avant l'éveil, on est sur la voie. Après l'éveil, on est sur la voie. » Ça veut clairement dire que ce n'est pas fini. Par contre, une chose qui s'effondre aussi, c'est la recherche. Toute cette tension d'aller vers, qui est encore une prise, toute cette recherche de bonheur, de paix, de joie, d'amour, d'un monde parfait, de quoi que ce soit qu'on cherche, d'un compagnon, d'une compagne, d'une réussite sociale, d'argent, peu importe, tout ça s'effondre. parce que ben, je suis ce que je suis, ça se suffit à soi-même. Je suis cet amour, cette paix, cette joie, cette sérénité, ce calme, cette tranquillité, cette ouverture que je cherchais. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Il n'y a plus rien à chercher. Que cela soit réalisé ou non, que cela soit complètement conscient ou non, c'est comme ça. Et au fil des mois, des jours, des mois, des années, en fait, c'est ça. C'est que petit à petit, ce que je suis en réalité, enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est comme ça, et bah, ça vibre. Voilà. Devient plus clairement perçu. Mais pas toujours. Et ça n'a aucune espèce d'importance. Que je sois complètement conscient à la seconde qui se passe de ce que je suis ou non, n'enlève rien à ce que je suis. Ça n'a pas d'importance. Alors, depuis que cette réalisation s'est produite, il a pu m'arriver que je me mette en colère, une fois ou l'autre, pas très souvent, beaucoup moins qu'avant. Mais le plus souvent, dans la seconde qui suit, ou 3 minutes après, c'est beaucoup trop long, il y a juste à rire à l'intérieur. Tiens, il y a de la colère. Tiens, ça, c'est marrant. Et l'expérience de la colère est pleinement vécue, elle est bonne. Et puis ça se pose sur, ah tiens, mais d'où ça vient cette colère? Et alors à ce moment-là, comme on est complètement avec la colère, qu'elle n'est pas du tout refusée, mais complètement vécue, intimement vécue, elle livre son secret, elle livre la pensée qui a fait qu'on s'est mis en colère. Et cette pensée est vue comme fausse, elle s'effondre. Et qu'est-ce qui reste? Le sourire. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ça peut être de la tristesse, ça peut être il y en a marre, ça peut être n'importe quoi que n'importe qui peut vivre, peut arriver ici aussi. La différence, c'est que, j'allais dire, ce n'est plus jamais refusé. C'est faux. Parfois, il y a refus. Mais quand il y a refus, il est comme la colère ou la tristesse, il est vu, il est accueilli. Ah tiens, ça refuse, ah, ça c'est marrant. Parce que en fait, que ce soit de la colère, de la tristesse, du refus, du jugement, ou de l'amour, de l'enthousiasme, ou je ne sais pas quoi d'autre, peu importe où ça peut paraître, à chaque fois ou presque, ou très rapidement, c'est vu pour ce que c'est. Une construction à base de pensées crues. Et au moment où les pensées sont vues, bah, elles s'effondrent. Parce qu'elles sont vues comme étant fallacieuses. Et donc, qu'est-ce qui reste? Ce que je suis, qui a toujours été là, qui est intouché et qui est souriant. Voilà. Il arrive parfois que ça colle. Ça m'est arrivé 3 fois en un peu plus de 18 mois. Le plus long, ça a quand même été 36 heures.
Alors là, il y avait 2 mois.
Non, il n'y a jamais eu de moi.
Non,
il y avait une histoire un peu plus crue que les autres et une incapacité à voir la pensée qui tenait cette histoire.
Alors, qui voyait pas la pensée qui tenait l'histoire?
Ben ça, ce qui est là. Il n'y a pas besoin d'un moi pour voir. Ah oui, je suis regard. Ce que je suis est regard. Et ça, c'est très important de le souligner par rapport à la recherche. C'est-à-dire que d'une façon générale, on a tendance à croire qu'il faut que je fasse quelque chose pour arriver quelque part. Et mais ceci s'appuie sur l'idée d'un moi qui doit faire quelque chose. Il n'y a pas de moi, ça ne peut pas marcher. Et si je m'appuie sur l'idée d'un moi, je ne peux que renforcer l'idée d'un moi. Je ne vais pas l'avoir s'effondrer. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui disent « on ne peut rien faire ». Et en ce sens-là, ils ont raison. En ce sens que je ne peux rien faire. Non pas, c'est pas peut rien faire qu'il faut entendre, c'est je. Il n'y a pas de je. Il n'y a pas de moi individu séparé. Donc la question de pouvoir faire quelque chose ou pas ne se pose pas. Comme celle du choix. On peut dire on n'a pas de libre arbitre quand on regarde, on voit que les choix se posent, que ce n'est pas moi qui les choisis, qui choisit. Mais ça, c'est encore avoir l'idée d'un moi. Mais on peut aussi dire, mais il n'y a pas de moi. Qui pourrait avoir un libre arbitre ou ne pas avoir de libre arbitre. Ça s'effondre. Et cependant, Je dis regarde. Et souvent, je dis regarde. On pourrait dire écoute, on pourrait dire sois avec, constate. Peu importe les mots. Hein. Bon, le mot qui vient souvent chez moi, c'est regarde. Mais vous pouvez changer le mot si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et pourtant, je dis regarde. Et pourtant, je dis regarde.
À qui ?
À qui ? À personne, puisqu'il n'y a pas de moi. Au regard lui-même. C'est juste le regard qui s'adresse au regard, ce qui est qui s'adresse à ce qui est. Dans un jeu cosmique, une apparition au sein de la conscience. C'est un jeu. La différence, c'est que de ce côté-ci, ça s'amuse, c'est beaucoup plus amusé par ce qui se produit. Mais c'est jamais un moi qui regarde. C'est jamais un moi qui peut faire l'effort de regarder. C'est pas un moi qui peut être attentif ou pas être attentif. Il n'y a pas de moi.
Alors je respire et je sais que je respire. Qui est-ce que je respire ?
Alors on va garder tout le temps je, me, moi, mien, etc. parce que c'est une facilité langagière. Et comme cette facilité langagière indique quelque chose, un lieu, un endroit, ce corps, alors ça va continuer à s'appeler je. Ramana disait, il y a la pensée je, c'est la voir comme étant fausse, je suis, et je avec un J majuscule, ce qui est, que j'appellerai ce qui est. La pensée je, c'est lorsque je suis pris, que je crois qu'il y a un moi qui agit, etc. Je suis, c'est quand je vois que il n'y a pas de moi. On va le voir aussi autrement. Et puis ce qui est, c'est un peu plus loin. On va le voir aussi. Ensuite, si tu regardes, tu vas voir que tu ne respires pas. Le corps respire. Ça se fait tout seul. Donc, je respire est un abus de langage.
Quelque chose qui sait que ça respire.
Voilà.
C'est ça.
Alors, c'est ça. Et ça, c'est déjà le regard, c'est déjà le témoin, c'est le je suis, etc. C'est-à-dire que si vous essayez d'arrêter d'être là maintenant, essayez d'arrêter d'être. On ne peut pas. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? C'est clair pour tout le monde ? Regardez, je ne peux pas arrêter d'être, mais il y a cette conscience d'être donc. Je sais que je suis. Restez avec ça, cet aspect-là de vous. Est-ce qu'il est agité ou tranquille ? Est-ce qu'il a un manque quelconque ou pas ? Est-ce qu'il a un désir ou non ? Est-ce qu'il est différent maintenant ? Il y a 3 minutes d'hier, de quand je suis malade, en bonne santé, petit, grand, vieux, est-ce qu'il est différent ? Ce que je ne peux pas ne pas être. C'est être-té. Essaye d'arrêter d'être. Tout de suite, tu es renvoyé. Ah, mais non, je ne peux pas arrêter d'être. Et je le sais. Et c'est pas mental. Je le sais, mais c'est pas mental. Est-ce que cela qui sait qu'il ne peut pas ne pas être s'appelle je de lui-même ? Est-ce qu'il s'étiquette ?
Ça bute en fait. Ça bute à un
moment. Oui. C'est là. Est-ce que ça cherche quelque chose ? Est-ce que ça a un besoin ? Est-ce que c'est différent selon les états émotionnels, les pensées, ce qui arrive dans le monde ou à moi ?
Se passer d'utiliser les je, les tu et les vous finalement. On mettrait que des verbes, ce serait bien.
Ouais, c'est juste plus pratique, c'est ouais. Tout. C'est une facilité langagière.
Mais voilà, ça.
Sauf que c'est pareil, on va bien être obligé, à partir du moment où on parle dans, dans ce rêve, où on s'adresse à d'autres éléments du rêve, ça facilite l'échange, c'est tout. Pourquoi s'en priver ?
Alors ça serait l'autre aspect, parce qu'il y a un aspect, je suis, donc je n'ai pas besoin de faire autre chose de moi, mais il y a l'aspect social. On vit dans une société, là, où on replonge dans le moi.
Ou pas, non, pas dans le moi, il n'y en a pas.
Permettez-moi d'avancer, permettez-moi de faire ça. Donc c'est,
mais c'est une facette, mais à cet organisme corps mental.
Voilà.
À cet organisme.
De passer.
Oui.
Donc je reviens de nouveau, donc je suis...
Mais où est le problème? Il n'y a pas de problème avec le fait qu'il y ait un corps, un organisme ici, et qu'il ait besoin d'aller aux toilettes, de boire un coup, ou
de
passer, tu vois.
Non, il n'y a pas de problème.
Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un moi qui dirige cet organisme. Individu séparé, qui pense par lui-même, qui agit par lui-même, qui pose des choix par lui-même.
Non, mais on doit le faire, on va dire, reconnaître par les autres qui ne savent pas qu'il n'y a pas de moi.
Ah bon, pour que faire?
Mais pour lui permettre de passer, par exemple.
Non.
Non.
Pas besoin. Non. Il y a un organisme qui s'adresse à un autre organisme qui lui demande, s'il vous plaît, laissez-moi le passage. C'est tout.
Donc laissez moi.
Mais parce que le moi désigne cet organisme, il ne désigne pas une entité séparée.
Oui.
Un individu séparé. C'est là où est l'erreur. Quand ce corps a soif, il a soif, c'est pas celui-là qui a soif.
Un peu comme les cellules d'un corps, quelque part.
On pourrait dire ça, oui.
Qui s'organisent entre elles.
Oui, pour le voir comme ça.
Bon, l'idée n'était pas là, mais l'idée c'était que je pourrais admettre qu'on arrive à une forme de non-moi, de conscience, de tout ça, mais dans la vie sociale de tous les jours, je pourrais l'admettre quand je suis en train de méditer, quand j'étais tout seul, ou des choses comme ça. Mais dans la vie sociale, il faut faire comme s'il y avait un moi, puisque les autres ne savent pas le secret qu'il n'y a pas de moi. C'est pas sûr.
On peut avoir certains comportements sociaux qui paraissent adaptés à telle ou telle situation, mais il n'y a pas d'identification, alors. C'est ça, la différence.
Oui.
Moi, ce qui me frappe, c'est qu'ici, peut sortir n'importe quel comportement, n'importe quelle phrase, n'importe quoi peut sortir. Et parfois, je suis étonné de ce qui sort, parce que je n'avais jamais fait comme ça avant. Parce que, si tu veux, il y a une liberté qui fait que ce qui émerge, émerge. Il n'y a pas de jugement. Tu vois? Alors, bien sûr, parfois, c'est un peu filtré, parce qu'il y a encore des restes de ce que j'étais avant qui viennent s'exprimer et tout. Mais en même temps, c'est juste comme ça, hein? Il n'y a pas de souci. J'essaye de faire moins de blagues bêtes. Ça ne marche pas toujours. Mais c'est drôle. C'est pas grave. Mais ça n'a pas d'importance. En réalité, ça n'a pas d'importance. C'est pas grave. Il se passe rien de grave, quoi.
Avec ça, je suis d'accord. Ça n'a pas d'importance. Mais non, c'est ce que tu dis, c'est tout à fait. C'est pour ça que je suis ici. J'ai regardé un peu les trucs sur Internet, conférences, donc. Mais il semble que ce n'était pas tout à fait clair. Mais ça commence, j'espère que dimanche soir, ça sera tout à fait clair. Il n'y en a plus de moi ici. Mais je viendrai quand même.
Il y en a jamais
mon corps. Alors tu vas te retrouver tout seul, il n'y aura pas de moi.
Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais.
Si, avant que tu arrives à cette conclusion, il y avait un moi. Il y avait
non, il y avait l'idée d'un moi. Il y avait la croyance en un moi.
C'est juste. Il y avait la
croyance. Il n'y en avait pas. La Terre n'a jamais été plate. Il n'y a jamais eu de Père Noël. Je suis désolé. Peut-être il y en a quand même.